Donc, il nous reste quatre séances, pardon. Deux ce matin, une cet après-midi, une en fin de journée, pendant lesquelles nous aurons un moment de discussion. En plus de tous les moments de discussion qu'on peut avoir entre deux, et puis donc demain, à nouveau demain. Donc si vous voulez bien, ce matin, on va voir quel est notre mandat sur la création, et puis en deuxième partie de ce matin, eh bien nous descendrons à un niveau un peu plus concret, de voir comment... quelle est la situation réelle du monde aujourd'hui et comment nous pouvons éventuellement réagir par rapport à ça. Et nous serons encore un peu plus concrets cet après-midi, mais le tout avec un certain nombre d'éclairages bibliques, donc éclairage de la parole de Dieu elle-même. Eh bien, figurez-vous que vous en êtes rendu compte, on l'a chanté déjà tout à l'heure, La création, elle est bonne. La création, elle est belle. Et commençons par un moment de contemplation. Et d'une façon qui va peut-être vous surprendre, je vous invite à nous contempler nous-mêmes. À nous contempler nous-mêmes, on parle... On va souvent parler d'amour, encore ces jours-ci, et vous savez que quand Jésus nous invite à aimer très fort notre prochain, il nous invite à l'aimer comme nous-mêmes. Donc nous avons une invitation à nous aimer nous-mêmes, et nous avons une invitation à nous contempler nous-mêmes dans le psaume 139, qui va être notre premier passage de ce matin. Psaume 139, des versets 13 à 18. « C'est toi qui as formé mes reins. » C'est toi qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Que je suis une créature merveilleuse. Donc sachons-nous contempler en tant que créature, en tant que bénéficiaire de ce don de Dieu que nous avons de la vie, de nos corps, de nos yeux, de nos oreilles, de nos sensibilités et de tant de choses et de tant de plaisirs, car l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé, et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger. Que je suis une créature merveilleuse et que je suis invité à savourer la beauté de cette création, de ces arbres, de ces fruits qu'on a, ces bananes et ces pommes qu'on a déjà mangées ce matin, qui étaient si beaux et si bons à manger. Nous sommes sur la terre pour notre bonheur. Nous avons été créés par amour de Dieu pour nous, pour notre bonheur. Mais nous sommes aussi sur la terre, surtout pour la gloire de Dieu. Et là, je vais vous amener dans ce merveilleux passage de l'Épître aux Éphésiens. Vous savez que dans les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, moi j'ai compté 36 promesses. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, tout dépend. Mais j'ai pris ma Bible et puis... j'ai lu ces deux, trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens en cochant à chaque fois que je voyais une promesse. Et je suis arrivé à 36 bâtons. Eh bien, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon les desseins bienveillants de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et un peu plus loin, verset 11, « En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Donc voilà un peu une façon de planter le décor, que nous sommes une créature merveilleuse, mais nous sommes là, bien sûr, pour notre bonheur, pour savourer les plaisirs de la création, mais aussi pour servir la gloire, et le tout en Jésus, notre Sauveur. Donc, sachons savourer ce statut que nous avons, cet état que nous avons, sachons en profiter, sachons en jouir. Et sachons savourer tous ces attributs avec lesquels nous allons pouvoir le servir. Nous allons bien sûr y revenir. Sachons savourer la création dans sa globalité. Sachons savourer tous ces plaisirs que nous avons de manger, de boire, de sentir, de voir, d'entendre la musique, d'entendre le chant des oiseaux, de toucher les caresses. C'est tellement délicieux, les caresses d'une mère et d'un enfant, ou les caresses dans la sexualité. Sachons apprécier tous ces bonheurs physiques, le bien-être qu'on a à se reposer. Je te vois si bien dans ton fauteuil. Eh bien, bénis le Seigneur que tu es si bien dans ton fauteuil. Merci Seigneur parce que nous sommes là, parce que nous avons chaud, parce que nous avons eu notre pain ce matin, parce que nous sommes en bonne compagnie. Sachons savourer tout ça. Et puis, sachons savourer ce que nous pouvons faire. Notre faculté d'aimer, qui est si douce, notre faculté de communiquer, de créer, de construire, de travailler, d'être libre, d'avoir des initiatives. Mais surtout, reconnaissons que le Seigneur nous a donné des facultés, des dons, pour qu'ils ne soient point enfouis. Parce que nous avons une mission à accomplir, nous l'avons lu dans cet épître aux Éphésiens, nous avons à servir sa gloire. Et nous avons à le faire notamment par notre mandat sur la création. Nous sommes partie prenante de la création parce que il y a ce que nous sommes, il y a ce qui nous entoure, et ce qui nous entoure, ce qu'on appelle dans le jargon moderne notre environnement, c'est-à-dire tout le reste de la création au-delà de la créature merveilleuse que je suis. Eh bien, figurez-vous que nous sommes invités à la savourer, mais nous ne sommes pas les premiers à la savourer. Dieu aime sa création. Et comment sait-on qu'il aime sa création ? Eh bien, parce qu'il nous l'a dit, il l'a trouvée bonne. Il l'a trouvée bonne 5 fois, je crois, dans les premiers versets de la Genèse. Dans Genèse 1, on voit cette espèce de refrain « Et Dieu vit que cela était bon ». Et la dernière création, la dernière créature, vous savez quelle est-elle ? C'est l'homme ? Non, c'est la femme. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'exclame en disant que cela est très bon. Bon, je crois que ça concernait aussi les hommes aussi. Donc, vous voyez que Dieu trouve que la création est très bonne. Et il la trouve tellement bonne qu'il la chérit, que dans le psaume 104, on le voit, « Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. » Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. On voit comment Dieu est toujours présent dans sa création, car il l'aime et il la chérit. Et on voit que, et on reviendra là-dessus, que Dieu chérit aussi l'homme et ce que l'homme a lui-même déjà transformé de la création. Au verset 15, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, eh ben, le vin, ce n'est pas uniquement le jus de raisin. Il ne suffit pas de prendre un raisin pour le presser. Il y a une transformation, il y a une action de l'homme. Hein, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui fait plus que l'huile resplendir son visage. Et l'huile aussi, eh bien, c'est le fruit d'une transformation. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Et le pain, c'est aussi une transformation de l'homme. Ce n'est pas uniquement... on n'est pas invité à manger des épis de blé, on est invité à transformer le grain de blé en farine et à faire fermenter tout ça et à cuire le pain et à manger ce pain qui nous soutient. Voilà. Et les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres de Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure dans les cyprès. Le psaume 104 est un psaume merveilleux, une ode à la création. Et enfin, ce verset 30, « Seigneur, tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. » Nous ferons peut-être une petite allusion au créationnisme cet après-midi ou tout à l'heure, je ne sais plus. Je suis un peu gêné avec la vision créationniste en 6 jours, peut-être que parmi vous, certains... sont attachés à cette vision. J'ai un peu de mal, ne serait-ce que parce que je vois ce verset 30 du psaume 104 qui nous apprend que Dieu continue à chérir et à renouveler sa création au quotidien. Tu renouvelles la face de la terre. On ne rentrera pas, sauf si certains le souhaitent, dans le débat création-évolution. Est-ce que l'évolution a sa place ou pas? Faut-il donner crédit à nos scientifiques qui tentent de nous prouver l'évolution? En tout cas, ce que je sais, c'est que la création, elle n'a pas été figée le sixième jour, même si le Seigneur a pris son sabbat, il le méritait bien. Hein, la création n'était pas figée, hein, parce qu'on voit très bien que le Seigneur, que Dieu renouvelle la face de la terre. Et c'est aussi une raison de grande espérance dont nous parlerons, car le Seigneur n'est pas allé se coucher et pour se réveiller, on ne sait pas quand. Donc regardons comme le Seigneur qui trouva ça bon, les perfections de la création. Prenons conscience de sa beauté, de sa bonté. Prenez conscience de la grandeur de la création. Hier, j'ai eu une notion de la grandeur de la création quand j'ai vu l'immensité de votre forêt québécoise et quand on voit votre grand pays merveilleux, on a une petite idée de la grandeur de la création, mais quand on sait, vous avez médité sur le psaume 8, c'est une invitation à avoir le vertige face à la grandeur du cosmos. Cette diversité, cette infinie complexité, c'est la science de l'écologie qui consiste à étudier cette complexité de la création et plus les scientifiques avancent, plus ils découvrent à quel point c'est compliqué et ils n'en feront pas le tour. L'interdépendance entre tout, l'interdépendance entre toutes ces espèces animales, végétales, entre ces espèces qu'on trouve dans la mer, cette interdépendance entre les hommes, entre nous tous, cette création est extraordinairement complexe, infiniment complexe et extraordinaire. Toute cette dimension relationnelle. Eh bien, sachons contempler. Et dans le mot contempler, il y a le mot temple. Hein, cette création. Ouvrons nos sens et nos cœurs à la création et sachons deviner en permanence l'œuvre permanente du Créateur. Et en faisant cela, eh bien, nous dit la parole de Dieu, nous allons pouvoir découvrir les attributs de Dieu. Parce que la création est aussi la manifestation, c'est un peu un livre qui s'ouvre. Dieu se révèle avec 3 livres. La Bible que vous connaissez, la parole de Dieu, hein. Avec Dieu se révèle par la création, c'est ce que nous allons voir. Et puis Dieu se révèle, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous laisser paraître hier. Dieu se révèle dans notre vie au quotidien, cette vie que l'on vit avec lui, en communion avec lui. Et on voit Dieu qui se manifeste dans notre vie. C'est, Et du reste, la parole de Dieu elle-même est un livre d'histoire qui nous montre comment l'histoire de Dieu avec les hommes, comment Dieu se révèle. Eh bien donc, la création manifeste sa grandeur, son infinité, sa puissance, sa complexité, sa perfection et son interdépendance, dont le lien est l'amour. Et là, nous allons pouvoir peut-être lire le psaume 19, psaume de David. « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil, etc. Vous pouvez continuer à lire ce psaume 19. Et puis, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous le rappelle très clairement en nous disant, Romains 1, 19, « Ce qu'on peut connaître Dieu est manifeste pour eux. » Il parlait de l'humanité. « Car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc on voit à quel point la création nous montre des attributs de Dieu. Et puis rappelez-vous Job, le livre de Job qui nous met tous vraiment dans l'embarras et qui a mis Job le premier dans l'embarras par rapport à toutes ces malédictions qui tombent sur ce pauvre Job qui était pourtant si juste, si fidèle. Et vous voyez tous ces chapitres du livre de Job où il y a ces discussions, où il y a ces bons amis qui viennent essayer de décrypter les raisons de l'épreuve de Job. Et bien, à la fin du livre de Job, on n'a pas vraiment l'explication. Mais Dieu répond en disant « Regarde ma création, regarde comme c'est bien fait, regarde comme tout ça est bien ordonné. Est-ce que c'est toi est-ce que c'est toi qui agis dans tout ça, hein? Ne sais-tu pas me reconnaître ? » Et on voit cette parole de Job merveilleuse. « Mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu en regardant justement les beautés de sa création. » Donc voilà, contempler la création, c'est aussi contempler les attributs de Dieu. Et la création nous parle aussi du Christ. Et le Christ nous parle aussi de la création. Le Christ, en Colossiens 1, est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. Et puis ce prologue de Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Et donc on voit là le Christ comme étant le principe créateur de la création. Et bien sûr, la création nous permet de louer Dieu, comme dans le psaume 48. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles, oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes de tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Et Dieu, il aime toute sa création. La création n'est pas uniquement le substrat pour l'humanité, comme on a souvent tendance à le penser dans notre vision anthropocentrique. Mais Dieu, il aime toute sa création. Il dit à Noé, dans Genèse 9, « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à vos descendants et à tout ce qui vit autour de vous, et à tout ce qui vit autour de vous, oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche, et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. » Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. etc. Vous connaissez la suite avec ce signe qui est l'arc-en-ciel, signe de cette nouvelle alliance. Mais vous voyez que ça concerne toute la création. Bien sûr, il s'adresse à Noé, il parle aux hommes en premier, mais il dit, mais ça concerne aussi les animaux, etc. Et Dieu aime tellement, nous parlerons bien sûr de la chute et des conséquences de la chute sur la création, mais Dieu aime tellement sa création qu'il lui a plu, nous dit Paul en Colossiens 1, il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude et de tout réconcilier, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il s'agit bien de tout réconcilier et pas uniquement réconcilier l'humanité. Et vous voyez que Dieu aime vraiment toute sa création et il a un plan pour toute sa création. Au point que lorsqu'il envoie les étudiants du GBU comme ses disciples en Marc 16, verset 15, il leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et non pas uniquement aux hommes. » Ça, c'est en Marc. Et nous savons que, nous en reparlerons, il y a un lien extrêmement étroit entre la création et la responsabilité humaine, notamment avec la chute, parce que la création elle-même, nous savons qu'il y a la chute qui nous a condamnés, et nous savons qu'il y a le salut qui nous sauve, et bien ce salut concerne aussi la création. En Romains 8, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Quelle perspective pour toute la création, nous reviendrons là-dessus. On voit que Dieu a une attention particulière pour les plantes, à qui il accorde la pluie, pour les animaux sauvages, à qui il donne du souffle, on l'a lu tout à l'heure. Il nourrit les animaux sauvages, toujours le psaume 104, « La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres, il fait germer l'herbe pour le bétail, les lionceaux rugissent après la proie pour demander à Dieu leur nourriture. » Dieu se donne du mal pour rappeler le soin que nous devons avoir vis-à-vis des animaux domestiques. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu respecteras le sabbat afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ta servante et l'immigrant puissent souffler. On peut même constater que l'âne et le bœuf passent avant le fils de la servante. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Et ce dernier verset du livre de Jonas. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, et des bêtes en grand nombre. Voilà, donc Dieu prend soin de toute sa création, et cette création, eh bien, au psaume 102, tu l'as autrefois fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Donc, là encore, je renouvelle la perspective, et nous en reparlerons, future de la création, qui, au même titre que l'humanité, eh bien, sera changée, renouvelée. Avant de parler du mandat dans la Genèse, rappelons que Dieu nous rappelle que la création lui appartient. Au psaume 50, « Tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Au psaume 104, toujours, « Que tes œuvres sont en grand nombre, Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. » Mais Dieu l'a donné aux hommes. Au psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence, mais nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à toujours, louer l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Et voyons maintenant ce mandat que Dieu a confié à l'humanité dans ses tout premiers versets de la Bible, dans le livre de la Genèse. Ces mandats se résument en 6 verbes. Croissez, multipliez, soumettez et dominez, cultivez et gardez. Alors, nous avons bien entendu vocation à remplir toute la terre, à multiplier. Je ne vais pas vraiment développer. Bon, c'est pas complètement le sujet d'aujourd'hui, encore que ça pose aussi des questions d'éthique. Jusqu'où allons-nous nous multiplier ? Il y aura bien un moment où on sera peut-être trop nombreux. Et je ne vais pas aborder cette question-là, mais c'est une question qui est certainement passionnante que des théologiens spécialisés en éthique pourraient traiter beaucoup mieux que moi. Nous sommes vraiment mis à part. Nous avons toujours, en faisant allusion à l'éthique, quand on écoute les experts en matière d'environnement, j'ai la chance de t'entendre fréquenter des congrès, et encore il y a quelques semaines en France, au Muséum d'Histoire Naturelle, il y avait 300 experts qui étaient réunis pour parler de l'échec de la politique de protection de la conservation de la nature en Europe. Et toute cette journée, alors que c'était des experts scientifiques, etc., toute la journée est revenue en permanence cette question d'éthique. Mais quelle est la place de l'homme dans l'environnement, disent-ils, dans la création, allons-nous dire. Nous avons la réponse, hein, et on reviendra toujours sur ce leitmotiv. En tant que chrétiens, nous avons des réponses que nous devons apporter au monde. Ce que nous constatons, en tout cas, c'est que, bien sûr, nous avons été créés, il y a eu de façon très spécifique, et nous avons un qualificatif qui nous concerne, différent des autres créatures, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en sait ? De Dieu, on sait quoi quand on nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu ? Eh bien, on ne sait qu'une chose, c'est qu'il est créateur. Donc nous avons été créés à l'image de Dieu avec cette faculté de créer, nous y reviendrons. Nous avons été créés à l'image de Dieu aussi en tant qu'être aimant, hein, puisque Dieu est amour. Mais nous avons été créés aussi comme de façon très pratique, comme étant une créature un peu mise à part. Bien sûr, nous sommes des animaux, nous nous reproduisons comme des animaux, nous avons les mêmes sens. Mais ce que nous pouvons voir aussi, c'est que nous sommes peut-être beaucoup plus intelligents que les animaux. Nous le sommes, effectivement. Et là-dessus, nous sommes une créature à part. Nous avons même une conscience, les animaux vivent par instinct et non pas avec la conscience. Nous avons cette liberté, ces choix conduits par notre conscience. Donc nous avons donc une différence fondamentale, une supériorité incontestable. Et en même temps, nous sommes, parmi les mammifères, extrêmement inférieurs à tant d'autres, à tous les autres mammifères. Parce que nous n'avons pas de fourrure, nous n'avons pas de protection naturelle, nous ne savons pas voler, nous ne pouvons pas nous envoler comme les oiseaux, nous ne pouvons pas nager comme un poisson, nous ne pouvons pas courir vite comme une gazelle. On est complètement dépendant de la création, on a besoin de se chauffer, on a besoin de s'habiller, on a besoin d'abri, on a besoin de cuire nos aliments, on a besoin de les transformer. Et vous voyez comment, quelque part, si nous sommes tellement supérieurs, en même temps, nous sommes l'espèce la plus dépendante de la création. Dieu a voulu faire les choses comme cela, et sans doute pour préparer notre responsabilité au sein de la création. Je n'ai pas beaucoup commenté le croissez et multipliez. Avançons sur le soumettez et dominez la terre. Ben, effectivement, avec ces attributs que nous venons de citer, cette différence, d'un côté plus intelligent, incontestablement, de l'autre beaucoup plus dépendant, eh bien, Dieu nous a invités à maîtriser la création, maîtriser les techniques, nous permettre. Dans le psaume 104, vous le relirez, on a toute cette description de cette nature et cette exclamation, tu renouvelles la face de la terre. Et dans Psaume 104, eh bien, on a vu le pain, on a vu l'huile, on a vu le vin, qui sont des aliments qui ont besoin d'une transformation pour être consommés. Et puis dans le Psaume 104, on voit aussi les bateaux sur la mer. Les bateaux sur la mer, les bateaux de l'époque, c'est quand même, le Psaume 104, c'est quand même écrit en 1000 ans avant Jésus-Christ. C'était le top du top de la technologie de l'époque. C'était les Dreamliner d'aujourd'hui. C'était, et on voit que Dieu salue... En introduisant ces navires dans le psaume 104, introduit vraiment la technologie comme faisant partie de la création, hein, comme faisant partie des conséquences de l'ordre que Dieu a donné dans la création. Et nous sommes très probablement toujours invités à inventer des avions, des trains, bombardiers, pourquoi pas, des TGV, Alstom, et d'autres... Et d'autres, vous voyez, là, je renvoie tout le monde dos à dos, puisqu'ils sont bien concurrents. Hein, mais je suis dans ma région Picardie, nous avons des trains bombardiers qui marchent très bien. Et vous voyez que la technique fait vraiment partie de la création. Hein, donc j'ai cité le psaume 104. Nous sommes amenés à dominer aussi les animaux, d'une part par l'élevage, pour pouvoir nous en nourrir, d'autre part par le dressage, pour pouvoir utiliser les animaux, que ce soit nos chiens pour garder les moutons ou nos chevaux pour faire tant de choses. On a dit que c'est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, mais c'est quand même le plus beau don que Dieu a fait aux hommes. C'est plutôt dans cet ordre-là. Et nous avons une invitation, surtout, à dominer et à connaître cette création. Et ça, c'est l'institution du travail scientifique. L'Éternel, Dieu, en Genèse 2, forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Et là encore, manque de bol pour la création en 6 jours, ou en tout cas des choses qui sont très courtes. Nous avons actuellement compté, je pense, environ, si je ne me trompe pas, 2 millions d'espèces sur la création, et on pense qu'il y en aurait autour de 10 millions, comme ordre d'idée, à 1 million près. Donc, vous voyez que cet ordre que Dieu a donné à l'humanité, de donner un nom à tous les animaux, on n'a pas encore fait le tour, on n'a pas encore terminé notre tâche. Et si parmi vous il y a des candidats aux travaux scientifiques, eh bien sachez que c'est tout à fait dans l'ordre de Dieu que de identifier, compter et maîtriser, comprendre comment tout cela fonctionne. Et puis les deux derniers verbes, eh bien c'est cultiver. Alors on voit bien sûr que dans ce dominer et soumettez, on n'est pas dans l'écrasement, mais nous y reviendrons un peu plus loin. Et puis les deux derniers verbes, c'est cultiver et garder. N'est-ce pas une belle définition du développement durable, hein? On dit que l'expression développement durable date du fameux rapport Burntland, qui, je sais pas, c'était 1969 ou 60, bon, dans ces années-là, peu importe, mais en fait, l'inventeur du développement durable, hein, c'est bien notre Créateur quand il nous a invités à cultiver et garder. Et curieusement, ces deux verbes, cultiver et garder, contrairement aux 4 premiers qu'on vient de citer, sont précédés par une conjonction qui est le pour. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Pardon, je vous ai dit par opposition aux autres verbes, mais le « pour » était déjà « pour qu'il domine ». Et en Genèse 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire que Dieu n'a pas placé l'homme en disant « bon, souhaitons qu'il ne prenne pas trop de place pour que ma création survive. Mais Dieu a placé l'homme sur la création en disant, cette création, elle a besoin d'être gardée. Et j'ai besoin d'avoir une créature qui est différente des autres, qui est à mon image, pour que la création soit gardée. C'est un petit peu mystérieux, c'est vrai, quand on voit qu'elle a passé cette création des milliers d'années, voire des millions d'années, voire des milliards d'années, à être avec tous ces équilibres. Et en fait, on peut se poser... Dieu aime toute la création, mais Dieu aime l'humanité. Et Dieu a voulu que l'humanité soit heureuse et a voulu que l'humanité remplisse la terre. Et regardons un petit peu ces six verbes dans l'ordre. Bien sûr qu'au point de départ, Adam et Ève et les premiers hommes étaient si peu nombreux que leur priorité, c'était... de multiplier, de conquérir la terre entière, et qu'à ce moment-là, on peut imaginer que l'humanité pouvait vivre beaucoup plus de cueillettes et de chasses que dans les périodes qui ont suivi. Et puis rapidement, il a fallu, comme je vous l'ai dit, s'abriter, se chauffer, s'habiller, etc., parce que Dieu nous a créés dépendants, et donc dominer, assujettisser les techniques, les animaux, parce que nous avions besoin de cela pour continuer à vivre. Et puis, au fur et à mesure qu'on est devenu de plus en plus nombreux, la cueillette et la chasse, ça n'a plus suffi. Il a fallu faire de l'élevage, il a fallu cultiver. Et on a ce cinquième verbe qui apparaît dans la chronologie. Et peut-être que nous sommes aujourd'hui toujours dans l'ère de la multiplication, toujours de l'ère de la domination et de la technologie. Nous sommes aussi dans l'ère de la culture, mais nous sommes maintenant, le sixième verbe va prendre de plus en plus d'importance. Bon, d'accord. Le verbe qui va prendre le plus en plus d'importance, c'est garder. Parce que, à la fin du XVIIIe siècle, on peut dire, lorsque l'ère industrielle est arrivée, il y a eu une inversion du rapport de force. Globalement, l'homme était extrêmement dépendant du reste de la création, et l'homme avait un pouvoir qui était extrêmement limité, mais l'ère industrielle est arrivée, et l'ère industrielle nous a donné aujourd'hui, par cette maîtrise, qui est conforme à l'ordre de Dieu, nous a donné un rapport de force complètement inversé, et que si on se laisse aller ce qu'on est en train de faire en ce moment, on va détruire le reste de la création. Et donc ça, ce sixième verbe, garder, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et pour qu'il le garde. Donc voilà ce mandat, comment il est décrit, et on ne peut pas dire que ni la chute ait remis en cause ce mandat, ni la venue du Christ sur terre n'a remis en cause ce mandat, ni la résurrection, ni l'ascension du Christ n'a remis en cause ce mandat. Ce mandat est toujours complètement, complètement d'actualité. Alors nous sommes invités à être des intendants. Des intendants ayant ce mandat, nous sommes des intendants, c'est-à-dire que l'intendant, il a un certain nombre d'attributs, il a un certain nombre de qualificatifs. Au psaume 24, l'Éternel, à l'Éternel la terre et ce qu'il a rempli, le monde et ceux qui l'habitent, car c'est lui qui l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai ce verset ici, peu importe. L'autorité est reléguée à l'homme, comme nous l'avons vu. L'homme, nous l'avons vu, a un certain nombre de talents, de dons, de facultés, de créer, une liberté, et Dieu va pouvoir lui confier, c'est-à-dire lui faire confiance, c'est-à-dire il a foi dans l'homme pour qu'il puisse assumer ce mandat. Il sait que l'homme est doté des qualités intrinsèques qui lui permettent d'assumer ce mandat. Il les sait capables, en plus, il les a rendus vraiment libres et responsables. Ce n'est pas un Dieu qui a dit « je vous confie quelque chose » et puis qui est toujours derrière lui en disant « mais attends, ce n'est pas ça qu'il faut faire ». Pas du tout, nous sommes vraiment libres. Et c'est assez frappant de voir que l'homme par excellence, ça a été Jésus, qui est venu aussi avec lui-même ce même mandat. Et ce qui est frappant, c'est que voir que nous sommes invités à l'image de Jésus à nous auto-limiter pour garder cette création, eh bien, pour rendre cette création durable, sustainable, disent les anglophones, nous sommes invités à nous auto-limiter. Et regardons un petit peu notre modèle, Philippiens 2, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. » Eh bien, on voit que le mandat de Jésus sur la terre, où est-ce que ça s'est terminé ? Après tout un processus d'humiliation. Eh bien, je pense que là, c'est une première invitation en tant que garant de la création, ayant bénéficié de ce mandat, en tant que doté de tant de dons et de qualités pour le faire, eh bien, c'est de savoir nous humilier et nous rendre vraiment serviteurs de la création, serviteurs du Créateur. Jésus a renoncé à sa puissance. Restons à l'image de Dieu, restons à l'image de Jésus et ne cherchons pas à devenir comme des dieux. Hein, ce qui, vous vous souvenez, a été la tentation qui a fait basculer l'humanité dans la chute. Donc bien sûr, nous reparlerons ensemble de la prière et de l'incidence de cette relation personnelle que nous allons développer avec Dieu. Hein, je vous ai dit, il nous a donné les clés, il nous a confié, mais ça ne veut pas dire qu'on lui a dit « Ok, bye bye, je prends les clés, maintenant je t'oublie ». Donc nous reparlerons de la prière. Mais en attendant, hein, rappelons-nous que nous avons ce mandat, que nous avons les dons qui vont avec ce mandat, et que nous devons les faire fructifier, nous devons prendre vraiment nos responsabilités avec tout ce que représente une responsabilité. J'ai presque fini. Donc, voyons que Jésus nous a montré l'exemple en tant que créateur qui est devenu créature. Nous sommes nous-mêmes des créatures si proches de cette création dont nous sommes responsables. Regardez, nous sommes des animaux, malgré tout, nous sommes aussi des mammifères et nous vivons dans notre chair ce que c'est que la souffrance. Nous vivons par boomerang toutes les souffrances de cette création, hein, par exemple la pollution, eh bien nous en sommes nous-mêmes directement victimes. Nous avons vu tout à l'heure que le péché de l'humanité entraînait la mort des poissons. Eh bien, le poisson, lui, il meurt, il est impuissant devant la pollution. Hein, mais nous avons une responsabilité et nous savons ce que c'est que de souffrir d'une pollution. Et nous en sommes proches et nous pouvons intervenir, nous pouvons agir. Nous l'avons vu, nous sommes totalement dépendants. Jésus a pris aussi, c'est venu souffrir au sein donc d'une créature souffrante. Et quand la création elle-même souffre, eh bien, c'est par miroir, bien entendu, Jésus qui souffre. Hein. À chaque fois que vous faites ceci au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Eh bien, je pense que cette parole concerne aussi toute la création. Donc, ayons une pensée pour toutes ces créatures dont nous avons la responsabilité, qui n'ont pas la possibilité de réagir, de se défendre, hein, alors que nous en avons, nous, la responsabilité. Donc voilà qui rabaisse cette notion de domination au fait de vouloir exploiter et par tous les moyens pour nous satisfaire, mais qui nous met face à une responsabilité de service. La théologie et l'écologie sont assez liées. L'écologie, c'est la science de tous les échanges dans la création. Hein. Eh bien, la théologie, c'est aussi la science des échanges entre Dieu, l'humanité, et Dieu, l'humanité, et la création. Eh bien, ce que nous sommes en train de faire, c'est la plénitude de l'écologie, puisque nous allons intégrer à l'écologie, non pas uniquement l'échange entre les créatures, mais les échanges entre tout ce qui existe, c'est-à-dire l'humanité et l'homme, et Dieu, pardon, et le Créateur. Et c'est ça aussi que nous devons apporter au monde. Et je termine en mentionnant un verset qui rappelle qu'à cette responsabilité qui nous est confiée, à cette liberté que nous avons, à ces dons qui nous sont donnés pour assumer ce mandat, eh bien, est liée une sanction, est liée un jugement. Apocalypse 11, verset 18, « Les nations s'étaient irritées, ta colère est venue, ainsi que les temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent de ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Donc vous voyez qu'il y a un verset très clair sur le jugement de ceux qui détruisent la terre. On s'arrête là pour maintenant ?